Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane sur Zichrona Livracha. À la question de Jonathan, comment sentir que la Torah que j'étudie, elle est bénéfique au monde entier? Comme ça, ça me renforcera aussi moi-même en avant. C'est un sujet tellement grand, tellement important, que j'aurais préféré ne pas en parler, de peur que je minimise l'importance des choses. Il est écrit que lors des jours de la création, c'est marqué premier jour, jour 1, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, le sixième jour. Pourquoi le sixième jour? Chazal, on dit que c'est aussi un sixième jour, c'était le sixième du mois de Sivan, que Dieu a donné la Torah au mont Sinaï. Ça veut dire que le monde entier n'a droit à l'existence que parce qu'un beau jour, Dieu a donné la Torah. Ça veut dire quoi donner la Torah? Il a donné un sens au monde. Sans Torah, le monde n'a pas de sens. Pourquoi on vit? Il n'y a pas de sens. Quand tu regardes l'humanité, le monde tel qu'il est, on est, on meurt, en attendant un des besoins, on fait des enfants. Ça n'a pas de sens. On est Neshama, c'est une partie divine en nous qui nous dit il y a un sens. Il y en a qui n'ont pas ce Neshama, ils ont très peu ou ils l'ont atrophié, donc ils ne ressentent plus. Kif, point barre, c'est ça le sens de ma vie. Les gens plus profonds qui veulent un sens. On ne peut pas se satisfaire de la satisfaction des petits besoins physiques. Ou on va dire de l'âme petite telle que le cavote et quelqu'un, t'as une super belle voiture, un super doctorat, ou plusieurs doctorats, t'es quelqu'un, la Légion d'honneur, tout ce que tu veux, rien à faire. Là. Je veux un vrai sens. Ce vrai sens est donné par Dieu. Et Dieu, jusqu'en 2448 de la création, ne se manifeste pas. Alors il y avait un certain message qui venait de Dieu, du premier homme. Le premier homme, il parlait avec Dieu, et nous, il a parlé avec Dieu. Il y avait un message, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le patriarche, il parlait avec Dieu. Mais c'était très très petit. Il n'y a pas eu un dévoilement de Dieu face à une multitude comme il y a eu au mont Sinaï. Et dès lors, Bnei Israël deviennent garants de cette Torah. Et c'est en fait les garants de la spiritualité du monde. Le monde a besoin de spiritualité. Tu verras que les plus grandes guerres ont été causées par les religions. Ça veut dire que on peut faire une guerre parce qu'on a envie de terrain, on a envie d'argent, parce qu'on a faim, on a besoin maintenant de remplir les caisses pour nourrir le peuple. Mais ça fait des petites guerres. Les grandes guerres étaient des guerres idéalistes. Ça veut dire qu'il y a une spiritualité. Ici, dans le cas dont je parle, les guerres de religion, qui a été canalisée à mauvais escient, parce que tu ne peux pas, au nom de ta religion, aller tuer. Pas au nom de ta religion, aller faire des croisades ou autres guerres saintes, d'accord? Mais les plus grands massacres de l'histoire ont eu lieu par des gens qui étaient motivés par un sens. C'est-à-dire que c'est une chose qui a beaucoup d'importance dans le monde. Sauf qu'il n'avait pas le vrai sens. Preuve en est le résultat. Pas maintenant venir au nom du bonheur de l'humanité et en éliminer une grande partie. D'accord? Et paradoxalement, tous les auteurs de ces crimes, d'accord, parlaient au nom du bien de l'humanité. Hitler dit, je vais maintenant nettoyer le monde de la vermine humaine. Staline, idem. Il veut arriver à une société modèle. D'accord? Je crois que Staline a tué beaucoup plus de monde que Hitler. Mao, idem. Tous les grands auteurs des génocides, les croisades, l'inquisition, tout ça, au nom de Dieu, pas au nom de Dieu, parce que les communistes, le socialisme, c'était pas forcément au nom de Dieu, mais au nom du bien suprême. Ce qu'ils pensaient, bien sûr. Les nazis avaient sur leur ceinture, c'était marqué Gott mit uns, Dieu est avec nous. Et au nom de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de spiritualité dans le monde très profond. Quand il n'y a pas la vraie spiritualité, alors il y a une fausse, un substitut qui amène le mal. Le résultat, ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est le résultat, d'accord? Aucun mouvement de spiritualité n'a amené le bien dans le monde, aucun. Je crois que je ne me trompe pas en disant que ça fait beaucoup, 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 beaucoup de sang, beaucoup de guerre. D'accord ? Je ne vais pas citer parce qu'il y en a encore qui sont encore sur le terrain et ça peut être dangereux. Mais vous comprenez que on ne voit pas encore. Plus quelqu'un était convaincu qu'il avait la vérité, plus il devenait dangereux. Et d'habitude, ceux qui payaient le pot cassé, c'était le peuple juif. D'habitude. Plutôt poursuivi que poursuiveur. Nous pouvons aujourd'hui prouver que la Torah est d'origine divine. Par plusieurs biais. Celui de prophétie, le cours à preuve irréfutable. Notre histoire, qui est extraordinaire, est prévue à l'avance. Comment un peuple survit autant de temps, 3500 ans, le même peuple, même langue, même religion, en exil depuis 2500 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, et ça ne rate jamais. Comme c'est écrit. Hein, le grand refrain qu'on dit dans un mois, une semaine, le soir de Pessah, Vishamda, Shubachol Gavador, Omni Malam Khalakan. Donc à chaque génération, on se lève pour nous anéantir. Et tu vois, ça ne rate jamais. C'est extraordinaire. Toutes les générations, qu'elles avaient, les potes, une nouvelle idée, un truc original, on n'a jamais pensé, quoi. On va anéantir le peuple juif. Ah tiens, original. Espèce de crétin. Regarde derrière toi, ça fait 3000 ans qu'il y a les mêmes idées. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À chaque coup, ils sont ratatinés, et nous, jusqu'à 65 ans, il n'y avait ni d'État d'Israël, ni d'armée israélienne, il n'y avait rien. Sous la botte de nos ennemis, des puissances extraordinairement énormes, petit peuple sans rien. Au bout de 2500 ans, tous ont disparu, et nous, on est là. Grâce à la spiritualité. Ça, la spiritualité, notre exemple du peuple d'Israël, il montre qu'il y a une force qui est beaucoup plus forte que la matérialité. On a tendance à prendre en considération la force physique, pas le spirituel. Le spirituel est bien plus fort, bien plus grand. Regarde, le peuple d'Israël en est l'exemple vivant. Et le bouquet, on revient en terre d'Israël, tel que c'est marqué dans la Torah. Cette terre qui était un désert devient un champ potager, aujourd'hui on exporte dans le monde entier. Et dernier acte, il y a une semaine ce soir, exactement à l'heure où nous sommes, messieurs, moins une heure, t'as 1 million de personnes, on jauge 800 000, 900 000, 1 million de personnes qui crient Shema Israël à Jérusalem. Et ça, c'est du complètement inimaginable. On aurait dit ça au Hafetz Chaim, il y a un siècle, il serait mis à pleurer, il n'aurait pas cru. Il y a une vidéo, le Rav Hazan m'a dit, une vidéo, on voit le Rav Chaim Kanievski qui vient à Jérusalem, il a mis son sur le balcon et il voit le monde entier comme ça. Rav Chaim Kanievski, il n'y a pas une seconde de son temps qu'il n'ait pas étudié de Torah. Il étudie Torah, 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 puis on le voit pendant 5 minutes, il regarde comme ça, je crois qu'il pleure, il s'essuie les yeux. C'est extraordinaire, extraordinaire. Qui aurait cru? Mais qui aurait cru? 1 million de juifs pratiquants crier Shema Israël. Parce que Ben Gurion a créé l'État d'Israël il y a 65 ans, il y avait 200 familles religieuses, il a dit, donc 20 ans, il n'y aura plus personne. C'est un État sur des bases socialistes, athées. Il n'y avait pas de place pour le monde religieux. Et là, Dieu a fait un miracle extraordinaire. J'en parle dans notre couvre qui s'appelle Erev Rav. Pourquoi Dieu a caché? Il avait un besoin de cacher le monde religieux sous un camouflage par rapport au mal non religieux. Mais aujourd'hui, le fruit est mûr et Baruch Hashem. On espère que la fin est très proche.
Ils ont récité une bracha qu'ils avaient pleuré.
En plus, ouais, une bracha qu'on a fait.
Il y a un site internet qui dit que c'est le plus grand événement de l'histoire juive depuis la destruction du temple.
Ouais, ça s'appelle Lava, le site internet qui dit ça. Ils ont recopié.
Sur AliExpress.
Sur les Havas, j'ai dit ici devant vous, après je l'ai mis sur le site. D'accord, et ils l'ont repris après. J'imagine, ou bien on est deux, on a eu la même idée, peu importe. On n'a pas le droit d'auteur, c'est bon.
Vous pensez que c'est prêt à casser les décrets là-haut? Il
n'y a aucun doute que c'est quelque chose d'énorme. Surtout.
Ça a fait quelque chose, ça a cassé quelque chose.
C'est clair, c'est énorme. On ne connaît pas quand on parle du plus grand événement, on ne parle pas d'événements physiques. D'accord, la bombe atomique Hiroshima, c'est un événement plus grand qu'un million de personnes qui disent Shema Israël. Oui, au niveau physique, mais là je te parle au niveau spirituel. D'abord l'union. Le peuple, le monde religieux en Israël, dernièrement encore plus, était déchiré. Déchiré en toutes sortes de tendances. Terrible. Et tous les gens qui ont un peu de jugement disent, mais arrêtez. La raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est parce qu'il y avait des disputes. Et là, après 2000 ans, on n'a pas encore compris. Après les croisades, après l'Inquisition, après le cheminiscrit, après Hitler, Pastel, on n'a pas encore compris. On voit encore de l'exil. Et Baruch HaShem, tout à coup, ils ont compris. Ils ont fait la paix, tous. Tous ensemble, se sont mis ensemble. Une semaine auparavant, tous les grands rabbins d'Israël, tous, de toutes les tendances possibles, sont mis ensemble. Et là, tous ensemble, ils ont créé Shema Israël. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc c'est clair que, comme cela est marqué, on revient dans la terre d'Israël. Et je n'ai pas le temps de trop développer maintenant, mais dans Parashat Vaishlach, c'est marqué que Yaakov arrive aux portes de Jérusalem. Comme ça, c'est le pshat d'après le Rashbam. Il arrive aux portes de Jérusalem. Et là-bas, il y a un Rashi qui dit que ce sera la veille de Shabbat. C'était la veille de Shabbat. Yaakov est arrivé aux portes de Jérusalem. Il s'est installé en face de Jérusalem. La veille de Shabbat. Jérusalem, c'est l'endroit du temple. Nous, aujourd'hui, nous sommes Yaakov, peuple d'Israël. Il est en face, autour. D'accord ? C'est la place de Jérusalem moderne où il y a les Juifs. Et quand tu as maintenant un million de Juifs qui crient Shema Israël, c'est Yaakov Avinu qui est là, qui dit qui Shema écoute Israël. Israël, c'est Yaakov Avinu. On est là. Donc c'est clair que les choses avancent. Donc, pour quelqu'un qui a un peu de jugeote, il comprend que ce n'est pas un peuple normal, tout à fait anormal, géré par une volonté, une providence divine, une volonté divine complètement hors, surnaturelle, il comprend que la Torah est vraie. Alors, comment ce peuple a tenu ? Comment ? Grâce à quoi ? Une seule chose. Une seule chose. Notre branchement avec Dieu. Dieu est éternel, on est éternel. Alors, comment on se branche avec Dieu ? Il y a trois moyens. Les mitzvot. Mitzvah signifie union. Tzevet, équipe, d'accord ? Tzavta, mitzvah. La prière. Tfila. Ça veut dire aussi petila, c'est-à-dire on est embobiné avec, on est lié ensemble. Étude de Torah. Je pense qu'elle ressemble à la relation avec la femme, comme toujours et comme d'habitude. Chazal compare beaucoup la relation qu'a le peuple d'Israël avec Dieu, qu'on entend qu'il y a un homme et une femme. On voit que chez Rachérim, quand on dit cantique, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est une parabole de la relation qu'il y a entre Dieu et un Israël. Avec une femme, comment, quels sont tes moyens d'avoir une relation avec une femme ? Le côté physique. Tu lui rends service. Tu demandes d'aller acheter quelque chose à l'épicerie. Enfin, tout le côté physique, l'aide physique, le contact physique. Et le contact physique en lui-même. Ça, ce sont les actes physiques qu'on peut appeler comparables aux mitzvot. Les actes physiques que nous faisons. Ensuite, il y a le discours de relation. Quand tu dis « va m'acheter, s'il te plaît, un truc à l'épicerie », c'est pas un discours de relation, d'accord ? C'est technique, c'est partie des mitzvot. Mais quand elle va dire « je t'estime énormément, je bénis Dieu de t'avoir rencontré », enfin, n'importe quel autre mot d'amour, je ne vais pas maintenant vous faire une... D'accord ? La prose devant.
Il y a un discours amoureux, il y a une relation sentimentale. Ça correspond à la chose. C'est appelé en arabe rachamé. Rachamé, c'est prière. Rachamé signifie aussi amour. Rachim, celui qui aime, d'accord ? C'est l'histoire d'amour.
Juste la tila, les trois quarts, c'est que des deux.
Dans la mila, tu as trois parties. La première partie où tu loues, vers la partie où tu remercies, les parties où, à l'intérieur où tu demandes. Et la partie la plus importante de la prière, on te dit, c'est le début et la fin. Alors c'est vrai qu'on demande aussi, on ne demande pas pour nous, on demande pour Amisraël. Et pourquoi pour Amisraël ? Amisraël, c'est la manifestation de Dieu. Donc on veut que le nom de Dieu se dévoile dans le monde, ça grandit dans le monde. C'est pas pour nous. Donc la prière, c'est le côté amour. Ok. Mais qu'est-ce qui est le plus grand dans la relation avec la femme ? Tu as le côté physique. C'est bien, c'est nécessaire, c'est pas tout. C'est sentimental, c'est très bien, c'est nécessaire, mais c'est pas tout non plus. C'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, tu veux la connaître. Qu'elle dise qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Et toi, tu veux aussi qu'elle te connaisse, bien sûr. La cipoque. Dieu, quand il donne sa Torah, il nous donne sa pensée. Il nous dit qui il est. Qui je suis ? Je ne sais pas ce que je suis. Moi-même, je ne sais pas. Comment je peux dire à ma femme ? Ma femme pourra savoir qui je suis d'après deux choses. Quand je vais dévoiler, exprimer ma volonté et ma pensée. Ce sont les deux choses les plus intimes de moi-même. Mon vrai moi-même, je l'ignore. Le vrai Dieu, qui il est, on ne pourra jamais savoir. On peut connaître Dieu vraiment que si on est Dieu soi-même. Il n'y a que nous qui se connaissons. les anges plus hauts ne peuvent pas voir Dieu dans sa totalité, c'est impossible. Mais Dieu nous fait un grand cadeau qui s'exprime à nous en nous dévoilant sa volonté et son désir. C'est sa Torah. Maintenant, plus je lis la Torah, plus j'apprends qui est Dieu. Je mange Dieu, je connais Dieu. Donc c'est une sorte d'amour extraordinaire, une connaissance. Pourquoi il y a une tellement grande soif d'étude de la Torah, pour ceux qui sont déjà branchés. C'est encore plus connaître. Quand ta femme, tu vas encore plus tu aimes, tu vas être fou amoureux d'elle, tu vas encore plus la connaître, plus la connaître, plus la connaître. Exactement. La fois qu'on entend dans la Kabbalah, déjà la Kabbalah va parler du monde supérieur. Rien de connaître moi dans mon intimité, qui je suis, comment j'agis. Encore plus haut. Pourquoi le Béjoël va tout de suite étudier la Kabbalah? Parce qu'ils sont, propulsés par un désir très grand de connaissance de Dieu. On dit, ok, viens, commence maintenant, voilà, t'as un vache qui a encore né un bœuf. Ok, donc il est où Dieu maintenant? Il est où celui-là?
C'est une demande d'ailleurs. Hein? Comment une vache qui s'est égorgée, qui tombe dans un trou, et qui après sort du trou, et qui a encore quelqu'un, peut voir Dieu?
Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, je veux que ce soit comme ça. Dieu a dit, une vache qui rentre dans un bœuf qui est comme ci, ça sera ça, comme ça, je veux que ça soit.
Souvent, quand on dit par exemple Abayé, Abba et tout, on dit on passe par.
Abayé, Abba. Dieu a dit qu'Abayé dit. Ouais, c'est la Torah de Dieu. Bien sûr. Maintenant, il y a la Torah de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, qui il est? Et qui il est dans son intimité? Connaître plusieurs niveaux de Torah. Connaître l'intimité de Dieu, c'est pas possible. Parce qu'il faut aussi connaître qu'est-ce qu'il veut, c'est partie de sa volonté. Donc normalement, on doit arriver à un niveau, on peut utiliser toutes ces parties de la Torah. Il compte la Kabbalah. Mais c'est pas pour nous, c'est quand on sera pur, grand et simple. D'accord? Et déjà, on aura beaucoup de canures dans le ventre. On commence d'abord par le pain, après le vin. La Kabbalah, c'est le vin. Alors, dès qu'il prend du vin à jeun, le vin, il devient masou. Il devient à côté de l'autre petit ventre. Mais cette volonté, elle provient d'une source pure. Ce branchement qu'on a avec Dieu, on donne vie à l'univers entier. Dieu n'a pas créé un univers pour que ce soit un univers, c'est tout. 10 puissance 21 étoiles dans le monde, chaque galaxie, il y a des milliards de galaxies, chaque galaxie contient des centaines de milliards, des dizaines de milliards d'étoiles. Pourquoi? Et toutes les petites bestioles qu'il y a dans la mer, les sous-fonds marins, dans les forêts, les gens, tout ça. Et l'être humain, tous les êtres humains, et tout ça.
Tout ça, pourquoi? Dieu n'a pas créé un monde pour qu'il y ait un monde. Et c'est tout. En plus, qu'ils s'entretuent. Il y a une raison, il y a un but, il y a une finalité. Et forcément, cette finalité, elle a à voir avec lui. Parce que lui, il est éternel. Comment expliquer cela? Quand on a une soif de sens en nous, c'est en fait une soif de vérité. Les gens qui sont propulsés vers la recherche de Dieu, ils sont poussés par une soif de vérité. Ils veulent le vrai. C'est quoi le vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas faux. Attends, c'est quoi faux? Ce que je dis est important, suivez-moi bien. C'est quoi faux? Faux signifie non réel. Je vous dis, je suis Obama. Je suis président des États-Unis. C'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est faux. Je vous dis, on m'appelle Ron Chaya. C'est vrai. Parce que la réalité, c'est comme ça. C'est vrai égale réel. Faux égale non dans la réalité. Alors, dans le réel, qu'est-ce qui est vraiment réel? La physique moderne nous dit que le monde que tu crois réel n'est même pas tout à fait réel, parce que ce qu'on croit être une table, ce n'est pas une table. C'est un ensemble d'atomes qui contiennent un vide énorme. Si le noyau de l'atome est grand comme une pomme, comme mon poing, les électrons tournent à 2 km, donc c'est plein de vide. Si on prend toute la matière, qu'on pourrait appeler matière, c'est-à-dire les noyaux et les électrons d'une table comme ça, la matière est invisible à l'œil nu. Or, je la vois. Pourquoi je la vois? Parce qu'il y a un champ. L'électron, il tourne très vite, il crée un champ électromagnétique sur lequel rebondissent les particules de lumière, les photons, dans ma rétine, et je vois. Mais en fait, il n'y a rien. De plus, ce monde est éphémère, parce qu'un beau jour, il ne sera plus là. La table, elle a un certain temps de vie après sa part. L'être humain, on n'en parle pas. Même le monde. Donc tout ce que nous croyons être réel, en fait, il a un être qui est très éphémère. Alors qu'est-ce qui est, vraiment? La seule chose qui est, c'est celui qui est, Dieu, dont son nom est « était et sera ». Quelqu'un qui a une soif de vérité, c'est qu'il a il est propulsé par une soif d'acquérir une relation, un branchement avec ce qui est pour être. Parce que quand je suis branché avec celui qui est, je deviens aussi, je veux être. Mais pas être dans le faux, pas être dans le non-être, je veux être dans le vrai être. Ce vrai être, c'est le branchement avec Dieu, qui fait qu'Am Israël est éternel, qui fait que la spiritualité est au-dessus de la matière. Un beau jour, la matière disparaît, reste la spiritualité. C'est le but que Dieu a donné au monde. Dieu ne veut pas un monde pour ce monde qui va disparaître. Ça ne rime à rien. Il a voulu maintenant donner occasion à une réalité très basse, éphémère, de elle aussi se brancher avec lui. D'être d'amplitude divine, se brancher avec Dieu. Ce cadeau est énorme. Maintenant, étant donné que c'est la raison du monde, quelqu'un qui étudie la Torah tout seul dans son coin, il réalise la raison du monde. Il est écrit « Imlo, briti, yomam, balayla, chokot, shaman, varez, lo, samti ». Ce n'est pas mon alliance d'études de Torah jour et nuit, je n'aurais pas créé le monde. Et dit Razal, s'il y aurait une seconde, pas une seconde, parce qu'on ne connaît pas le temps de Dieu, un milliardème de nanosecondes, un milliardème de seconde, sans Torah dans le monde, il n'y a plus de monde. Le monde tient sur ça, yom hashishi. Tant qu'il n'y a pas de don de Torah, ce monde n'a pas droit à l'existence. Quelqu'un maintenant qui étudie la Torah dans son coin, il légitime que le monde existe. 7 milliards d'habitants, plus tout ce qui se passe, toutes les réalités, elle a droit à ça, parce que c'est le seul but qui vaut la peine. Celui de se brancher à la vérité. Baruch Adonai, l'olam, amen, v'amen.